Voilà. Donc c'est une joie d'être parmi vous et nous apporter aussi la parole de Dieu. Et vraiment, j'ai à cœur qu'on puisse ce matin s'encourager d'une façon mutuelle. Qu'on puisse s'encourager, que chaque baptisé, chaque chrétien puisse prendre pleinement sa place d'une façon spirituelle dans le nom de Jésus. Vraiment, c'est l'appel de Christ, c'est un appel, c'est son corps. Il appelle son corps. Ce n'est pas uniquement des privilèges pour certains, mais c'est vraiment c'est toute une communion. Donc vraiment, je suis dans cet état d'esprit. Ce que je vais vous partager ce matin, c'est vraiment quelque chose que chacun puisse recevoir, que chacun puisse prendre pleinement sa place dans le nom de Jésus, spirituellement. Vous êtes tous importants pour ceux qui sont engagés dans les eaux du baptême, ceux qui sont croyants, chrétiens, et pour ceux qui sont encore sur le devenir, sur ce chemin, eh bien, on veut aussi qu'ils soient encouragés, mais je veux parler vraiment ce matin pour les baptisés, pour les gens qui ont donné leur vie à Christ, qu'on soit encouragés. Jean-Luc disait dimanche dernier que les personnes qui sont mises devant ou qui se mettent devant donc, ne sont pas plus importantes que les autres. Donc, il y a un principe dans la parole, c'est qu'il n'y a pas de privilège. On est tous importants aux yeux de Dieu. Il n'y a pas des privilèges accordés plus à certains que d'autres. Nous avons tous eh bien, une part, une responsabilité devant le Seigneur et une place à prendre spirituellement. Le combat de Luther, donc il y a quelques siècles, c'était sola gratia, c'est-à-dire la grâce seule. Donc Luther s'est battu contre un monde religieux qui voulait faire croire que le salut, on pouvait l'acheter, c'est-à-dire qu'en donnant certaines choses, on pouvait acheter notre salut. Et Luther s'est levé en disant non, c'est Jésus-Christ qui nous donne d'être sauvés par sa grâce. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas par nos mérites. Après, il y a eu Calvin. Son combat, ça a été l'écriture seule. L'écriture était seulement réservée à un certain corps, à des élites. Il y avait seulement quelques personnes qui avaient l'écriture, mais Calvin a lutté contre ça pour dire que c'est que l'écriture seule qui peut nous aider à avancer. Et aujourd'hui, je me pose la question, quel est notre combat aujourd'hui? Et après réflexion, je dirais que c'est la victoire. La victoire seule étant Jésus-Christ. Je pense que notre combat aujourd'hui, c'est la mise en place de la victoire de Jésus-Christ qui a déjà été acquise. Nous devons, il faut que tu prennes pleinement la victoire en Jésus-Christ. Christ a remporté la victoire, elle est acquise et il nous la donne. Et j'ai l'impression que certaines fois, notre combat, c'est ça, on a du mal à la saisir, on a du mal à la prendre, cette victoire, pour pouvoir l'annoncer aux uns et aux autres. Donc mon thème, le titre de ce message, ce serait « L'autorité de Jésus ». Et pourquoi je prends ce thème? C'est pour nous conduire aussi sur cette question, comment sommes-nous associés à l'autorité de Jésus-Christ? Comment sommes-nous associés à l'autorité de Jésus-Christ? En tant que chrétien, vous avez une responsabilité, vous êtes aussi associé à cette autorité. Est-ce que vous croyez que vous avez de l'autorité en Jésus-Christ? Nous avons de l'autorité en Jésus-Christ. Et on va le voir à travers la parole de Dieu. Non pas, ce n'est pas de la prétention en disant on a de l'autorité, etc. C'est vraiment un message de Jésus-Christ. Et c'est ce qui fait que nous sommes différents. Et c'est la différence que nous devons apporter au monde. Ce n'est pas de construire des beaux bâtiments avec marqué dessus Église. Ce n'est pas de créer des groupes de jeunesse, de louanges, etc. Excusez-moi, on en a besoin. Mais la différence de Christ dans ce monde, c'est qu'on prenne pleinement l'autorité qu'il veut nous confier. Alors, on va faire deux lectures. On va commencer par une. Et ces deux lectures sont dans l'évangile de Marc. Donc, c'est simple, on va prendre le premier chapitre et le dernier chapitre de Marc. Alors, première lecture au chapitre 1 de Marc, l'évangile de Marc. Du verset 21 au verset 28. « Alors Marc, chapitre 1, verset 21 jusqu'à verset 28. Jésus et ses disciples arrivent à la ville de Capernaum, le jour du sabbat. Jésus entre dans la maison de prière ou la synagogue et il se met à enseigner. Ceux qui l'entendent sont très étonnés par sa façon d'enseigner. En effet, il n'enseigne pas comme les autres maîtres de la loi. Il le fait avec l'autorité que Dieu lui donne. Juste à ce moment, un homme qui avait un esprit mauvais en lui entre dans la maison de prière. Il se met à crier. « Jésus de Nazareth, qu'est-ce que tu nous veux ? Est-ce que tu es venu pour nous faire du malheur ? Je sais bien que tu es le Saint de Dieu qui a été envoyé. » Jésus menace l'esprit mauvais en lui disant « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit mauvais secoue l'homme avec force et sort de lui en poussant un grand cri. Tous sont très étonnés et ils se demandent entre eux « Qu'est-ce qui se passe ?» Cet homme enseigne d'une façon nouvelle et avec assurance. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Alors les gens se mettent à parler de Jésus dans toute la région de la Galilée. Alors l'évangile de Marc, quelques petits rappels. Donc l'évangile de Marc, c'est l'évangile qui a été inspiré aussi, qui a inspiré l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc. Marc commence directement son évangile à 30 ans. On n'a pas du tout toute la naissance de Christ. Il commence au chapitre 1 directement à l'âge de 30 ans par rapport à Jésus. On voit quelques versets de Jean-Baptiste hein, qui appelle les gens à la repentance. Il y a quelques versets sur le baptême de Jésus. Après, il y a la tentation. Trois versets pour la tentation. Il y a la bonne nouvelle en Galilée. Il y a les appels des disciples. Et là, on arrive dans le cœur du sujet. Donc, la délivrance du possédé dans la synagogue de Capernaum. C'est la première action publique de Jésus. C'est juste après son baptême, ça se passe, donc c'est la première action, c'est le premier acte public de Jésus. Donc Jésus n'est pas forcément un rabbin, il est plus charpentier que rabbin, mais par contre il connaît les Écritures. Et par deux reprises, le texte qu'on a pris, les gens sont étonnés. Jésus est là, il annonce une parole, et ils sont étonnés parce que Jésus a une autorité qu'ils n'avaient pas ressentie auparavant. Alors j'aime bien mettre dans le contexte de l'époque, donc essayez de vous mettre dans ce contexte. Il faut savoir que les rabbins, c'était eux qui annonçaient l'Ancien Testament dans les synagogues, et c'était des gens qui étaient formés vraiment pour annoncer les choses de la parole de Dieu, mais ils étaient formatés, ils avaient des techniques oratoires. Il fallait prendre tel verset, il fallait citer tel grand rabbin. Il y avait toute une codification. L'enseignement des rabbins était surtout basé sur des discours, la sagesse, donc des messages éducatifs, des messages avec une bonne morale, un message où on parlait des 10 commandements et puis on les répétait. Mais là, les gens, en écoutant Jésus-Christ, là, ils sentent qu'il y a quelque chose qui est différent. Il y a une autorité qui est différente. Il y a une forme qui n'est plus la même. Et c'est vrai que les discours, chaque dénomination a une certaine forme. L'Église protestante a une certaine forme dans son discours évangélique. Même les charismatiques, hein, ils ont une certaine forme pour annoncer la parole. Mais là, Jésus-Christ fait la différence et il y a quelque chose qui les interpelle. Parce que Jésus-Christ annonce la parole avec l'autorité de Dieu. Il se passe quelque chose, c'est-à-dire que la parole qu'ils entendent, ça ne touche plus eh bien, leur tête, ça touche leur cœur. Et ça vient toucher l'esprit. Hein, la parole de Dieu vient mettre une séparation entre l'esprit et l'âme. Donc quand Jésus prêche, il y a quelque chose de différent. Il ne parle plus des bons comportements qu'ils doivent avoir. Tenez-vous bien, etc. Non, ça c'est surtout une attitude religieuse. Les religieux voulaient asservir le peuple dans une certaine morale. Mais Dieu, Jésus vient, et à travers Jésus, il le parle avec autorité. Ce n'est pas quelque chose de mieux dit, ce n'est pas une technique oratoire, ce n'est pas parce que Jésus vient avec ses acquis ou ses diplômes ou tout son passé. Non, c'est parce qu'il avait cette autorité, il y avait quelque chose de différent. Quand Jésus-Christ parlait, il y avait, dans son autorité, il y avait quelque chose de différent. Et la question que je me pose, c'est qu'en tant que chrétien, nous devons aussi apporter une différence dans ce monde, vu qu'on est censé ressembler à Jésus-Christ, et bien que Dieu nous aide aussi. Hein. Là où vous êtes, dans votre travail, dans votre famille, là où vous êtes, et bien que Dieu vous permette d'avoir une différence, cette différence, comme Jésus-Christ pouvait l'avoir. Cette autorité, c'est quoi? Donc, Jésus ne se contente pas de parler. Il parle, et tout de suite, il y a des actes qui se produisent. Il parle depuis deux versets, et puis, hop, il y a un homme rempli d'un esprit mauvais qui rentre dans la synagogue. Et là, c'est nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Les humains constatent que Jésus-Christ est différent par son enseignement et son autorité, et les démons savent aussi que maintenant, ils ont du fil à retordre, ils vont en baver. Jésus-Christ est là, et il y a quelque chose qui se passe qui est nouveau. Avant, les démons n'étaient pas dérangés. Avant que Jésus arrive, ils vivaient leur vie, ils n'étaient pas dérangés. Quand vous regardez l'Ancien Testament, il n'y a aucune histoire qui parle que quelqu'un a été délivré en chassant un démon au nom de Jésus. Aucune histoire dans l'Ancien Testament. Il y a deux histoires qui nous parlent d'esprits mauvais au niveau de Pharaon et puis du roi, mais c'est des esprits mauvais qui ont été envoyés de la part de l'Éternel et non pas de l'ennemi. Donc jusqu'à l'arrivée de Jésus, les démons étaient tranquilles. Et pourquoi? Parce que les hommes faisaient leur petit train-train et ils ne les dérangeaient pas et ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et les rabbins prêchaient, mais vu que les rabbins prêchaient des choses de la vie, cela ne changeait rien dans le monde spirituel. Mais Jésus-Christ apporte quelque chose. Il apporte le royaume de Dieu. Sa parole est là pour apporter le royaume de Dieu. Il est marqué dans Matthieu 12, verset 28, « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, les démons étaient tranquilles. Et Jésus arrive et il met quelque part un désordre spirituel. Il parle depuis deux versets et soudainement il y a une personne avec un esprit mauvais qui lui crie dessus. Il est en train de mettre un désordre parce que le monde dans lequel il rentre et il vit, c'est un monde qui était administré par le malin. Alors maintenant on va essayer de comprendre l'autorité de Jésus à travers la phrase qu'il a dit aux démons. Donc, une phrase très courte, « Tais-toi, sors de cet homme. » Alors, la première chose, « Tais-toi. » Donc, cet homme est possédé et il vient et puis il annonce tout haut, « Tu es le Saint qui est venu de la part de Dieu. » Et ce qui est bizarre, c'est que l'esprit mauvais dit des choses vraies. C'est la première fois qu'on voit quelqu'un qui annonce la messianité de Jésus-Christ. « Tu es le Saint de Dieu. » C'est dit par un démon. Il dit des choses vraies. « Es-tu venu pour notre malheur ?» Oui. « Es-tu venu pour nous embêter ?» Oui. « Es-tu le Saint de Dieu ?» Oui. Le démon, en fin de compte, ne dit que des vérités. Et je crois que là, il y a une leçon qu'on doit tirer, qu'on doit comprendre. Il ne suffit pas uniquement de dire des vérités, mais il faut qu'il y ait le cœur. Il faut dire des vérités suivant le cœur de Dieu. Et en plus, le démon le dit d'une façon forte. « Tu es le Saint de Dieu. » Et donc, il met une cafouille dans la synagogue. Et il le fait exprès pour, en fin de compte, montrer que si Jésus est là et que les démons commencent à s'agiter comme ça, ça va devenir difficile. Et puis, les gens vont se dire « Ben, on était plus tranquille avant. » Donc, ils ne nous embêtaient pas et on leur donnait des petites offrandes de temps en temps. Ils se tenaient tranquilles comme des animaux domestiques. Maintenant, si Jésus est là et qu'il met une pagaille pas possible, il y a quelque chose qui fait peur et les gens sont dérangés. Et donc, Jésus dit, tais-toi, même si cette personne dit des choses vraies. Et pourquoi il lui dit tais-toi, même si c'est vrai? C'est parce qu'il ne le dit pas suivant un esprit de vérité. Il le dit suivant un esprit de désordre, un esprit démoniaque. Vous avez un écrit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, verset 16, qui nous parle d'une dame qui avait un esprit de Python, c'est-à-dire de divination. Et cette personne-là, elle suivait les apôtres en disant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils annoncent la voie du salut. » Elle n'arrêtait pas de répéter ça. Et peut-être que nous, si on était là, on se serait dit « Oh super, la voyante, elle s'est convertie. » Elle s'est convertie. Et pourtant, les apôtres, eh bien, ils ne vont pas la laisser tranquille. Ils vont intervenir pour chasser l'esprit qui est en elle. Et on pourrait se dire que elle annonçait des vérités. Ces hommes étaient venus pour annoncer le salut de Dieu et les apôtres l'ont fait taire. Tais-toi, car cette parole que tu dis n'est pas suivant l'esprit de vérité. Je répète, c'est important à comprendre, surtout dans le monde dans lequel on vit. Des vérités, vous allez en entendre, beaucoup, beaucoup. Des gens qui ont des paroles, qui ont l'air bien, ça a l'air sage. Des gens même qui vous vendent de la spiritualité qui ressemble à deux gouttes d'eau à l'évangile, mais qui n'est pas l'évangile. Et nous devons avoir ce type d'autorité de dire « tais-toi ». Non pas à la personne, mais à la puissance qui peut l'animer. Il y a des gens qui peuvent être porteurs de faux évangiles. Je ne dis pas ça pour non plus avoir une psychose, puis se méfier de tout. Non, mais que nous soyons avertis aussi de ces choses. Et souvent, des gens qui vous donnent des mensonges, ce n'est pas 90% de l'évangile. Sinon, ce serait trop gros. Imaginez quelqu'un qui vient vous voir, qui vous dit « Tu dois tuer ton père et ta mère, surtout n'aime pas ton voisin, etc. » Bon, vous vous dites « Il est à côté de la plaque. » Mais non, c'est plus subtil. Il va prendre beaucoup plus de vérité et puis il va insinuer des mensonges. Des choses qui ne sont pas dites par l'Évangile. Donc une parole vraie dans la bouche d'un sorcier, c'est un mensonge, même si la parole est vraie. C'est dit suivant un esprit faux. La vérité, c'est pas un concept. La vérité, c'est Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut le dire ça tous ensemble? La vérité, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une question d'annoncer les choses, c'est une question de relation. Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie. La vérité est en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit des vérités qu'il le dit suivant un bon esprit. Il faut avoir cette relation avec Dieu. Ce n'est pas non plus une question d'aligner des mots pour que ce soit vrai, mais c'est une qualité d'inspiration, ce que Dieu t'inspire dans ton cœur. Des fois, quand vous parlez les uns avec les autres, vous pouvez dire « Tiens, là-dessus, je te donne mon opinion. Je pense que telle ou telle chose, tu ne devrais pas le faire ainsi. » Et puis des fois, vous allez dire bah « Là, je te le dis au nom de Jésus. » C'est-à-dire que vous ressentez qu'il y a une vérité de l'Évangile que vous devez dire à cette personne. Mais par contre, attention de ne pas non plus abuser. « Le Seigneur m'a dit que, le Seigneur m'a dit que. » Donc il y a une mesure une mesure quand même qui doit rester assez sage. Et puis quand on dit « le Seigneur m'a dit », quelque part, il faut trembler aussi. C'est tellement important, quand on dit « le Seigneur m'a dit », il faut avoir une certaine sobriété dans ce qu'on peut dire de la part de Dieu. Donc ça, c'est la première chose que je voulais partager avec vous, c'est la question de la vérité. Jésus lui dit « tais-toi, tais-toi ». Même s'il dit des vérités, il lui dit « tais-toi ». Deuxième parole, « sors de cet homme ». Simplement, pourquoi il doit sortir? Parce que Dieu a créé l'être humain pour accueillir uniquement l'esprit, son esprit et l'esprit de Dieu. Il n'y a pas de place pour autre chose. Donc quand Jésus dit « sors », c'est parce qu'il n'a rien à faire ici. « Sors de cet homme ». Donc l'être humain a été créé pour uniquement ces deux choses. Il n'est pas fait pour recevoir en lui un démon, un esprit de comédie, des puissances, même un esprit d'un autre humain. Des fois, on entend des personnes qui donnent le nom de son grand-père à d'autres personnes. Et ils lui disent, écoute, c'est pour qu'il y ait une continuité. On te donne ce nom pour qu'il y ait une continuité du grand-père. Eh bien non, dans le nom de Jésus, il n'y a pas à avoir de continuité, il n'y a pas à avoir d'esprit humain dans telle ou telle chose. Donc Jésus dit, sors. Bon, après, quand on dit sors, donc souvent on pense que l'autorité est synonyme aussi d'intensité de voix. Pas du tout, l'autorité en Jésus-Christ sort. Il le dit simplement. Donc ça, c'est le type d'influence que nous devons avoir. On parle de choses spirituelles. Ce matin, Corneille nous a introduit en disant qu'il y a de la spiritualité à avoir. On doit être spirituel. Il y a une spiritualité, mais pas n'importe laquelle, celle de Jésus-Christ. Et le type d'influence que nous devons avoir dans ce monde, c'est celui-là. Remettre de l'ordre dans la création. Hein, Jésus est arrivé, il délivre cet homme qui est possédé. Il est venu pour libérer des jougs pesants sur le dos des gens. Il est venu aussi pour, vous le voyez avec la belle-mère de Pierre, elle avait une certaine fièvre et Jésus lui dit, il a chassé la fièvre de sa belle-mère. Bien sûr, il y a des maladies qui sont physiques, mais il y a aussi des choses spirituelles. Là, il lui a dit « sors », donc que, pas « sors », mais que la fièvre soit chassée parce que c'était une fièvre qui était spirituelle. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le Christ ? Il vient remettre de l'ordre dans la création. Et nous, c'est le type d'influence qu'on doit avoir, hein, remettre de l'ordre autour de nous. Que Dieu nous aide, hein, dans ces choses. Les apôtres ont été en plus après envoyés pour pouvoir faire ces choses, pour chasser les démons, guérir les personnes. Et aujourd'hui, c'est nous. On a cette responsabilité d'aller vers les uns et les autres et d'être revêtus de cette autorité. Alors maintenant, je vais vous conduire sur la deuxième lecture. Donc c'est dans Marc 16, verset 16. Et nous allons voir que cette autorité est reproclamée dans l'évangile de Marc à la fin. C'est l'accomplissement de ce qui s'est passé dans la synagogue de Capernaum. Donc Marc 16, 16. Donc ça, c'est des versets que vous pouvez, pendant un certain temps, j'ai un frigo avec des aimants, et des fois, mettre des versets dans sa maison et les afficher, c'est encourageant. Marc 16, verset 16. « Celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. Et à ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront des langues nouvelles, ils pourront prendre des serpents dans leurs mains. S'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades et les malades seront guéris. » Amen. Amen. Vous lisez comme moi, ce n'est pas marqué pour des super croyants, des super spirituels, non, c'est marqué pour tous ceux qui croient. Ceux qui croient. Donc tous ceux qui croient, voici les signes qui vont pouvoir accomplir. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que Jésus n'a pas dit d'aller dans les grandes villes, de créer des bâtiments, etc. Mais on en a besoin, je répète, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est ce qui est marqué. Celui qui croit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. Croire, donc c'est avoir confiance, s'enraciner, faire les choses que Dieu veut. Donc, le but de mon message, c'est de vous faire prendre conscience de l'autorité qu'en tant que baptisé, vous avez. Est-ce que vous prenez conscience de l'autorité que Dieu vous confie? L'autorité, ce n'est pas uniquement quelque chose de dédié au pasteur ou à d'autres personnes. Bien sûr, ils en ont, il y en a, ils ont de l'autorité. Mais c'est plus que ça. Ce que nous venons de lire, c'est ceux qui croient. les baptiser. J'aimerais faire une parenthèse avec vous par rapport à cette autorité, c'est sur le baptême. Pourquoi le baptême est important? Je vais directement au but. Le baptême, c'est une marque spirituelle, même si ce n'est pas marqué bibliquement ainsi, mais c'est une marque spirituelle. Ou un sceau, voilà, il y a une marque. Vous allez me dire, bon, c'est bien beau, on va dans l'eau, on est baptisé, on sort, ça sèche. Elle est où ta marque? Maintenant, je suis autant se faire un tatouage marqué Adonai dessus. Au moins, on va bien le voir. Mais on n'est pas là pour se faire des marquages physiques. Hein. Dans la Bible, il est marqué de pas se percer même les oreilles. Donc, on doit pas agir sur son corps. On ne doit pas agir sur son corps. On ne doit pas se faire des piercings ou des tatouages. On n'est pas là pour se faire des marquages physiques. Ça ne nous sert à rien. On est là pour être marqué spirituellement. Hein, on est là pour être marqué spirituellement de la part de Dieu. Jeannette, tu l'as dit tout à l'heure, la marque du chrétien. Hein, que Dieu nous marque. On a besoin d'être marqué spirituellement de la part de Dieu. Pas des marquages physiques, mais une marque spirituelle. Hein, dans Romains 8, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est une marque. Et sur les marques, vous pouvez prendre l'histoire de Caïn au début de la Genèse. Il est marqué que Caïn a une marque sur lui. Est-ce que vous croyez que Dieu a mis « ne tuez pas Caïn parce que je le protège » je ne sais pas, sur le front. Pour moi, c'est une marque spirituelle. Et quand Caïn se promenait sur la surface de la terre, il suffit qu'il y en ait un qui ait un esprit de meurtre, et bien cette marque faisait que il n'y touchait pas. Il y a une marque. C'est pour ça que je vous parle de l'autorité du baptisé. Vous êtes marqué. Vous êtes marqué. Et ça, dans le monde des ténèbres, ça, on le voit. Le baptême est important parce qu'on est marqué. Il appartient à Jésus-Christ. Tu es marqué. Il est à moi. Il est à Jésus. Et un démon, quand il voit ce genre de choses, donc vous êtes marqué Jésus en vous, il peut essayer de tenter de faire toutes ces fourberies, toutes ces choses, il peut essayer. Mais si vous prenez votre identité en Jésus-Christ, en plus de ce marquage, il ne peut rien vous faire. Amen. Il ne peut rien vous faire. Le baptême est important. On est marqué, celui-ci est mon enfant. Et si tu prends toute ton identité en Jésus-Christ, il ne peut rien te faire. Vous êtes marqué de Dieu. Et une petite parenthèse, ça c'est le marquage spirituel, mais dans nos vies, il peut y avoir aussi d'autres marques, d'autres étiquettes. Je vous donne un exemple simple. Une personne qui dit, écoute, dans ma famille, moi, les gens, tous les hommes, ils ont un sale caractère. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est une étiquette. On se met une étiquette sur soi. Et il y a des étiquettes qui sont très fortes. Je ne veux pas trop m'avancer dans ce propos, mais ça. Il y a des gens qui ont été victimes de telle ou telle chose et à croire qu'il y a une étiquette sur leur vie. C'est-à-dire que des personnes qui circulent sur la surface de la Terre et puis d'un coup, des personnes qui ne sont pas forcément aguicheuses, et puis il y a quelqu'un qui recherche une proie, hein, et il y a comme une marque. Il y a toujours quelque chose qui est là et qui fait qu'il y a un marquage spirituel. Bon, je le dis avec beaucoup de prudence, je ne vais pas rentrer dans ces propos, mais ou alors des gens aussi qui répètent des histoires. Je ne sais pas si vous en connaissez autour de vous, on a l'impression qu'ils tournent toujours sur la même histoire. Ils ont eu toujours et puis ils vont aller autre part, ils vont récupérer, ils vont refaire une histoire. Et si là, il n'y a pas de marquage spirituel, s'il n'y a pas de marque ou d'étiquette, c'est des choses qu'on a du mal à comprendre, mais qui sont réelles. Hein, on est là pour parler des choses spirituelles. On n'est pas là pour s'entretenir entre nous. On aime ça, mais on est là pour parler des choses spirituelles. Donc, il y a des marques sur nos vies, des marquages, des étiquettes. Donc, nous sommes revêtus de l'autorité de Christ et il doit y avoir aussi tout un travail d'enlever les étiquettes. hein, au fur et à mesure. Et ce process, ce n'est pas d'être plus gentil. Hein. D'enlever des étiquettes, ce n'est pas être plus gentil, de faire traverser la vieille dame au passage piéton. C'est pas ça, ça, c'est de la morale. Mais ce que l'on doit faire, c'est de poser ces choses qui sont sur toi. Poser ces choses qui sont sur toi, il y a des étiquettes qui sont sur nos vies. J'aimerais qu'on prie un instant, s'il vous plaît, qu'on puisse baisser nos têtes. Je voudrais prier pour ces choses qui ont été nommées sur nos vies, sur ces étiquettes que tu entretiens dans ton cœur, qui sont là et qui se répètent. Nous voulons, Seigneur, d'une façon spirituelle, te dire que tu es le Tout-Puissant. Et nous voulons que ces étiquettes qui ont été posées puissent tomber dans le nom de Jésus. Je te demande de bien vouloir accompagner mon frère et ma sœur. Tu veux mettre toutes choses à ta lumière, Seigneur, et que tu puisses retirer ces mensonges qui ont été prononcés sur ta vie. Ces choses, ces étiquettes qui font que ça donne un droit, un pouvoir à des autorités qui ne sont pas de Dieu. Ça donne comme un droit à des choses spirituelles qui ne sont pas de Dieu. Mais Jésus veut que tu te défais de toutes ces étiquettes, parce qu'en lui, il y a la vie. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Il y a une parole très forte dans Jérémie, au chapitre 31, verset 29, qui nous dit « Dans les temps où le Messie sera venu, on ne dira plus « Les parents ont mangé des raisins verts et les enfants grincent des dents ». Certains utilisent ces versets-là pour dire qu'il y a une loi spirituelle en disant « Si les parents font telle chose, les enfants auront telle chose. » Vous m'entendez bien ? « Si les parents font telle chose, les enfants auront telle chose. » Ce texte ne dit pas ça. Ce qu'il dit, c'est que sans le Messie, sans Jésus, c'est ce qui fonctionne. Des étiquettes sur nos vies, des choses qui sont toujours là à se répéter. Par contre, avec le Messie, c'est ce qu'on doit détruire. C'est ce qu'on doit enlever, retirer. Encore quelques mots, après je vais passer. La première chose à faire par rapport à ces étiquettes, c'est se repentir. Et là, il y a encore quelque chose de difficile à comprendre. Comme tout à l'heure avec la vérité, la vérité pour nous, on vit dans un monde, la vérité c'est des choses qui sont dites, qui sont vraies. Suivant Dieu, non, c'est pas ça, c'est Jésus. Et par rapport au repentir, on pourrait se dire que quelqu'un qui est victime n'a pas besoin de se repentir. Mais suivant Dieu, non, c'est autrement. Alors attention, je ne dis pas que la victime doit retourner dans les bras de celui qui l'a abusé. Mais elle ne peut pas rester dans un état de victime. Elle ne peut pas avoir son identité comme victime. Ça, ce n'est pas possible. Il faut se repentir. Il y a des gens qui ont été victimes de certaines choses et on a besoin de se repentir. Dire, Seigneur, tu vois, je ne veux plus être cette victime, se donner ce nom que j'étais abusé, que j'étais timide, que j'étais séductrice ou que j'ai eu telle ou telle chose. On ne peut pas rester dans cet état. C'est difficile à comprendre. C'est difficile parce que dans notre société, une victime a besoin d'être reconnue, mais c'est normal. Et la rétribution, c'est-à-dire reconnaître qu'elle a eu telle ou telle chose. Mais elle ne peut pas rester ainsi. Elle ne peut pas rester dans cet état de victime. Elle doit se repentir même de ça. Repentir des choses qu'elle a pu dire sur elle-même. Et ça, pour ceux qui ont un besoin, demander à des conseils pour pouvoir sortir de cet état de victime. Mais je vous le dis pour que chacun prenne l'autorité en Jésus-Christ. Tu peux prendre ton autorité en Jésus-Christ et puis faire ce travail aussi d'enlever ces étiquettes qui te colle. Dieu est là pour mettre de l'ordre. Dieu est là pour te ressourcer. Dieu est là pour te donner d'aller de l'avant, non pas d'être béni uniquement pour... non, il est là pour qu'on puisse donner sa gloire. Et qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des bénédictions. Bien sûr, il est marqué que ceux qui croiront iront, donc chasseront les démons, guériront les malades. Bon, je ne vous l'ai pas dit, mais je sais que vous êtes sages, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Les apôtres ont été envoyés chacun dans un pays différent. Ils ont ressenti aussi quelque chose de différent pour les uns les autres. Mais on a l'autorité de Christ. on peut utiliser cette autorité. Utilise aussi cette autorité pour enlever tes étiquettes. Et les étiquettes, pour les défaire, faut prier pour cela. Seigneur, tu vois, les étiquettes qui sont sur ma vie, j'ai nommé toutes les choses, je te prie au nom de Jésus, j'enlève cette étiquette. Et cette prière-là, vous pouvez être accompagné, mais le seul qui peut la faire, la seule personne qui a autorité, qui prend autorité au nom de Jésus, c'est vous-même, pour enlever ces étiquettes. On peut accompagner, mais c'est à vous de décider. Voilà. Donc, j'aimerais qu'on prie un instant. Je ne sais pas si Jeannette, j'aurais aimé prendre un chant. Tu l'as choisi. Victoire au Seigneur de la vie. Je ne sais pas si... Non. En attendant que les musiciens se préparent pour prendre ce chant, on va peut-être pouvoir prier à deux ou trois, hein, d'une façon simple, que ceux qui sentent cette liberté de pouvoir prier et de remercier le Seigneur pour ce qu'il nous donne, ce qu'il veut nous donner. Voilà, je vais commencer, que chacun se sente libre, hein, de prier dans cette direction. Dans cette direction que tu veux nous donner, Jésus-Christ, de rentrer tous ensemble, les uns avec les autres, Seigneur, dans cette bénédiction que tu veux donner. Tu veux qu'on prenne place en ton nom, Seigneur. Tu veux qu'on nomme les choses qu'on doit nommer, qu'on se retire de tout esprit mauvais, Seigneur, et qu'on puisse aussi aller de l'avant pour prendre cette autorité. Nous voulons que la vérité soit dans nos vies, Seigneur, non pas que des choses énumérées, mais toi. Toi, tu es la vérité, le chemin et la vie, et nous te voulons, Seigneur, dans nos vies. Et je te prie pour mes frères et sœurs, Seigneur, ce matin, que celui qui s'est senti ce matin touché, qui a besoin de défaire des étiquettes qui le collent, des scénarios de sa vie qui se répètent, Seigneur, je prie pour lui, pour elle. Vraiment, que tu puisses le bénir, Seigneur, que tu puisses l'aider. Tu es celui qui donne vraiment une pleine bénédiction en toi. Tu nous donnes cette autorité, Seigneur, pour défaire les choses qui doivent être défaites. Tu nous donnes cette autorité, Seigneur, pour dire tais-toi à ce qui prend place, à des mensonges, Seigneur, à des esprits qui sont là pour séduire, à des esprits d'incrédulité, à des esprits, Seigneur, de division, à des esprits de discorde, à des esprits de contrôle, à des esprits de pouvoir. Seigneur, tu es là pour nous dire tais-toi, tais-toi. Non pas à l'homme qui est pris par ça, mais à l'esprit qui est à l'intérieur de cet homme ou de cette femme. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur. Tu bénis aussi les malades et tu nous as dit de les guérir. Dans ta parole, il n'est même pas parlé d'intercéder, tu nous as dit de les guérir. Tu nous demandes d'aller de l'avant, de les guérir. C'est une mission que tu confies à chacun d'entre nous, Seigneur. Amen, Seigneur.
Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. Seigneur, tu as coupé les cordes, hein, Seigneur, sur les vies qui ont été tellement abîmées, terrassées, Seigneur. Tu es celui qui délivre. C'est toi qui délivre et qui coupe les cordes qui retenaient. Merci Seigneur pour ce que tu nous as donné ce matin. Coupe. Ils ont creusé de profonds sillons. L'ennemi a voulu détruire ta vie. Il y a des traces. Ton dos est labouré. Mais l'Éternel est juste. Il a coupé ces choses par Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité. Saisis cela. Saisis. Amen.
Seigneur de la vie, Tu es tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon,
tu es bon,
tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon,
tu es bon,
tu es bon.
Vous le croyez?
En tout temps, en tout temps, tu es bon.
Vous pouvez taper dans les mains aussi, puisqu'on n'a pas Jean-Pierre à la batterie aujourd'hui, il est loin. Voilà. Vous le connaissiez ce chant? Combien le connaissent?
Que tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es bon.